Ce que vous allez écouter, c'est un petit retour sonore de la journée de lutte paysanne qui s'est déroulée à Frameries le 18 avril 2021. Vous allez entendre dans l'ordre les interventions de Sébastien Kenness des Rencontres des Continents, de Marie-Hélène Lefebvre des FIAN, de Florence Defourny du collectif Nature sans friture, de Jonathan Peuch des FIAN et de Nicolas Barla des SES Femmes. Merci à eux et elles et à tous les manifestants et manifestantes de cette journée d'avoir prêté leur voix pour ce podcast.
On fait passer devant, moulinet, en pique, pied à gauche, et puis on revient, on se prépare pour le saut,
droit devant,
en pique, on revient derrière, moulinet.
Ceux et celles qui se demanderaient d'où vient le kata de la houe. C'est donc en fait une espèce de danse paysanne, un kata donc qui a été inventé par des activistes et des paysans paysannes du syndicat paysan unitaire en Suisse, il y a pile 10 ans. Et il l'avait fait justement pour lutter aussi contre le bétonnage d'une parcelle agricole en Suisse. Et donc nous, on a décidé de le reprendre en Belgique avec le RESAP à plusieurs reprises. Mais donc l'invention ne vient pas des Belges, elle vient de nos camarades suisses. Comme ça, vous savez tout.
Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette journée internationale des luttes paysannes. On espère que vous êtes chauds. Est-ce que vous êtes vraiment chauds? Ah, trop bien. Mais du coup, bienvenue encore une fois à cette 25e journée internationale des luttes paysannes, puisque c'est une journée qui existe depuis 1996 et qui a été déclarée par la Via Campesina, il faut le rappeler, pour commémorer, en fait, des luttes paysannes, pour commémorer la mort de 19 paysans et paysannes du mouvement des Sans-Terre au Brésil, qui ont été assassinés par des tueurs à la solde des grands propriétaires terriens. Et donc, chaque année depuis, le 17 avril et aujourd'hui le 18, on se mobilise pour les luttes paysannes et pour dire qu'en fait, ben, on est nombreux à lutter et on le sera encore. Journée des luttes paysannes, en Belgique, c'est la 10e, et on l'organise avec le réseau de soutien à l'agriculture paysanne pour permettre de lier des luttes locales, comme celle de la nature sans friture ici à Frameries, contre ce qui pourrait devenir une méga usine de frites ici. Là derrière, on a juste des entrepôts et des frigos, mais Clarebaud prévoit de faire quelque chose de 3 à 4 fois plus grand et d'en faire une énorme usine. Donc ce genre de projet-là, on n'en veut pas. On n'en veut vraiment pas. Mais aussi pour lier ces luttes locales à des questions plus globales, comme cet agro-business de la pomme de terre, en fait, qui se trouve derrière Clarebaud, où on voit que notre culture, en fait, notre symbole belge de la frite, eh bien, elle a été dévoyée par l'agro-business, par la mondialisation. Et on se retrouve avec des agriculteurs qui doivent étendre leur culture, qui doivent s'endetter pour pouvoir les étendre, qui doivent signer des contrats qui sont peu sécurisés avec des usines, puisqu'il faut rappeler que les contrats qui sont signés entre les patatiers et les usines, si la production est mauvaise, ce sont les producteurs qui doivent pallier au manque de pommes de terre à leurs propres frais. On se retrouve surtout avec une culture de pommes de terre qui est 16 fois plus importante que nos besoins réels en pommes de terre en Belgique. Ça veut dire moins de terre pour la nourriture qui pourrait être mangée et cultivée localement en Belgique. Mais ça veut surtout dire que toutes ces pommes de terre excédentaires, eh bien, elles sont transformées et elles sont exportées dans des pays, parfois des pays dont même viennent les pommes de terre, au Pérou, en Colombie. Et ça crée une concurrence entre les paysans et paysannes du Nord et les paysans et paysannes du Sud. C'est pas quelque chose qu'on veut, c'est pas quelque chose de souhaitable. Et on voit que des accords de libre-échange comme UE-Pérou ou UE-Mercosur viendraient encore renforcer cette dynamique qui est néfaste et qui est nocive pour les paysans et paysannes.
Quand on a pris connaissance de ce projet,
Moi, je me souviens de ce jour-là, j'étais assise devant le JT et c'est comme ça que je l'ai appris. On annonçait une création de 300 à 500 emplois à Frameries. Et donc là, je découvre que ben, c'est tout près de chez moi et je m'y intéresse en me demandant, ben, tiens, qu'est-ce que c'est que cette production, qu'est-ce que c'est que ce modèle, etc. Et donc, je découvre un modèle assez interpellant. Avec une pollution extrême, donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous promener aux alentours d'une usine qui produit des frites, mais donc on a d'abord les premières nuisances qui frappent et qui tapent à l'œil en premier, c'est tout ce qui est lié à l'odeur, pas seulement l'odeur de friture, mais aussi la pomme de terre en décomposition. Déjà rien qu'ici, quand on est en pleine période de stockage de pommes de terre, on a déjà droit à certaines odeurs par ces hangars. Mais donc, voilà, on s'intéresse à ça. On a la chance d'avoir des usines Clarbod qui existent déjà. Donc, il y a une usine à Warneton, une usine en Flandre à Newkirk. Et donc, on est allé sur place visiter, on est allé voir. Et donc, on a découvert vraiment le modèle le plus absurde, je pense, qui puisse exister pour plein de raisons. Donc déjà, la première, c'est que c'est une industrie qui produit de la malbouffe. Hein, donc ça, c'est une première chose. C'est de la merde en boîte, en sachet plutôt. Et donc, voilà, on va... Enfin, c'est pour être clair, on ne va pas mâcher ces mots. Et ensuite... On se renseigne de comment ça se produit, comment ça fonctionne. Et donc, c'est vrai qu'on prend un peu de hauteur par rapport à tout ça. Et on découvre une surproduction de la pomme de terre, des produits phytosanitaires qui sont utilisés. Donc, on voit pour une récolte de pommes de terre, on utilise 20 produits différents de pesticides. Voilà, on découvre plein de choses qu'on n'a pas envie d'avoir près de chez nous, qu'on n'a pas envie d'avoir dans notre région et qui ne correspond même plus à un modèle qu'on veut défendre pour la Belgique entière. Et donc, on s'est mobilisé énormément et donc rapidement, on a eu pas mal de gens. Donc, le premier travail, ça a été ça, c'était d'informer, de mobiliser. Les gens pensent en fait que l'usine, c'est ça. Donc, il y a des gens qui disent, mais l'usine, elle est déjà là. Mais non, donc il n'y a pas d'usine. On a ici les hangars, le frigo. L'usine de production, c'est le projet futur.
Ni ici, ni ailleurs. Ni ici, ni ailleurs. Ni ici, ni ailleurs. Ni ici, ni ailleurs.
Parce que la patate, c'est un symbole culturel en Belgique. C'est vraiment une des raisons pour laquelle la Belgique est connue, c'est le chocolat, la bière et les frites, quoi. Et donc ça, c'est un objet qui est très banal. Et en fait, questionner les systèmes alimentaires à partir d'un objet aussi banal que celui-là, ça nous a semblé intéressant parce que tout le monde est concerné. Tout le monde mange des frites ou des pommes de terre en général, quoi. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière cette patate, finalement? Parce que est-ce que cette patate, ça correspond à l'image d'Épinal qu'on a, c'est-à-dire un paysan qui travaille la terre, dans la nature, un travail difficile, mais en fait on est récompensé par ce qu'on produit pour le territoire? Ou alors en fait, est-ce que la patate, et c'est ça qui est montré ici avec cette usine, est-ce qu'en fait c'est pas des grands champs de monoculture, c'est des tracteurs, c'est des territoires agricoles désertiques avec très peu de travailleurs, uniquement des machines, des produits chimiques, et tout est centralisé dans ce genre d'usine? La Belgique, c'est le premier exportateur mondial de pommes de terre surgelées. Et a priori, l'usine qui est prévue ici, ça va multiplier par un tiers la production de la Belgique. Donc c'est le premier mondial, ça restera encore le premier mondial. Et en fait, c'est juste avec des petites usines comme ça qu'on nourrit complètement la population vraiment du monde entier en frites surgelées. Donc c'est des frites McCain, c'est des frites pour les groupes de fast-food, c'est des frites, c'est des chips Lay's. Tout ça, c'est fait dans les usines en Belgique. Donc c'est là exactement ici, je sais pas, mais c'est ce genre d'usine. En gros, il y a des grosses pâtes, des champs de patates industrialisés. On amène tout dans des usines très centralisées. Il y a des robots qui les pèlent, qui les coupent, qui les préparent. Ça les recongèle. Et puis c'est vendu partout. Et donc ça, c'est un système alimentaire contre lequel on se bat, en fait, quoi.
Nos frites, on les aime, paysannes. Nos frites, on les aime, paysannes. Nos frites, on les aime, paysannes.
Les frites.
En fait, en Belgique, il y a 16 fois la production de pommes de terre par rapport à la demande. En fait, ça serait pas très grave si les gens mangeaient tout ce qu'ils voulaient en quantité et en qualité. Le problème, c'est que même en Belgique, un pays qui est très riche et au cœur de l'Union européenne, en fait, il y a des énormes problèmes nutritionnels. D'une part, il y a à peu près la moitié de la population qui est soit en surpoids, soit en obésité. Donc, en fait, c'est vraiment difficile pour les. Et cette part-là, c'est les personnes les plus précarisées. Donc, les moins aisées financièrement, les moins éduquées en termes de niveau d'instruction. Celles qui ont le plus de mal à s'en sortir dans la vie. Donc pour cette partie de la population, en fait, l'alimentation, c'est une variable d'ajustement dans leur budget, quoi. C'est-à-dire ils doivent choisir entre se loger, se nourrir, se chauffer. Et c'est des choix comme ça qui sont faits. Et donc forcément, qu'est-ce qu'ils font en termes d'alimentation? On va vers le produit le moins cher et le plus calorifique, quoi. Et là, il y a beaucoup d'études qui ont même montré vraiment en Belgique à quel point l'alimentation ultra transformée est en fait moins chère et plus intéressante en termes d'argent calories que l'alimentation nutritionnellement meilleure, c'est-à-dire les fruits, les légumes, une diversité de nutriments. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'un pays est riche? On pense qu'il est riche parce que du coup on comptabilise tout ce qui est vendu et produit dans le PIB. Donc en fait, ce genre d'usine derrière, ça permet vraiment de compter parce qu'on sait qu'il y a tant d'hectares, tant de patates qui sont vendues ailleurs. Donc une comptabilité très claire, ça rentre dans le PIB, etc. Dans les pays pauvres, dans les pays du Sud, là où en fait 70% au niveau mondial, 70% de l'alimentation est produite par des petits paysans. L'agro-industrie donc ne produit que 30%. Mais bon, politiquement, on a l'impression que c'est l'inverse, parce que dans les pays riches, c'est l'agro-industrie qui produit la majorité. En fait, dans les pays pauvres, pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont pauvres? C'est juste parce que les familles font pousser des aliments, les vendent, et tout ça, c'est compté nulle part. Donc en fait, c'est de la richesse qui n'est pas comptabilisée, et c'est du travail invisible, en fait, si on veut reprendre les théories féministes. Quoi. C'est-à-dire que tout ce travail-là n'est pas comptabilisé dans l'économie.
De libre-échange qui permettent l'exportation notamment de tous les produits comme ceux de Clarebout, et ben des deux côtés de l'Atlantique, que ce soit en Europe comme en Amérique du Sud, ils représentent une énorme menace pour la survie de nos petits et moyens agriculteurs. Et alors forcément, quand on entend ça, on pense avant tout au projet d'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Et c'est normal, mais malheureusement, l'UE-Mercosur, ce n'est pas le seul accord qui aujourd'hui menace à la fois la survie de nos agriculteurs et de l'environnement. Depuis 2012-2013, il y a un autre accord de libre-échange aussi qui a été conclu entre l'Union européenne et le Pérou, la Colombie et l'Équateur. Alors la première chose à savoir sur cet accord, c'est que c'est un accord commercial qui rentre dans la catégorie des accords qui peuvent entrer en vigueur de manière provisoire avant même que tous les parlements d'Europe ne les aient ratifiés. Donc le résultat, c'est que ici, depuis 2013, cet accord produit des effets dramatiques, alors que par exemple, le Parlement de la région Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne l'ont même pas encore approuvé. Première chose à savoir, donc. Alors, qu'est-ce qu'on reproche concrètement à cet accord? On reproche beaucoup de choses, mais notamment le fait que, et on peut l'observer maintenant depuis 8 ans, c'est un accord qui booste les exportations de produits industriels comme ceux de Clarebout vers d'autres continents, notamment l'Amérique latine. Ça veut donc dire que finalement, toutes ces pommes de terre frites ici surgelées, produites par Clarebout ou autres, elles vont être coupées en frites, surgelées, emballées dans du plastique, et puis elles vont parcourir la moitié de la planète pour arriver dans les supermarchés sud-américains notamment. Et ça, c'est clairement une aberration. Donc vraiment, pour prendre le secteur de la patate, ce qu'on constate depuis 2013, c'est que l'Union européenne a pu exporter plus de 26 000 tonnes de pommes de terre frites surgelées par an. Donc c'est trois fois plus qu'avant l'entrée en vigueur provisoire de l'accord. Et ça, c'est clairement une aberration pour deux raisons au moins. La première raison, c'est que tous ces pays, ils n'ont absolument pas besoin de nos patates frites surgelées. Si on prend l'exemple du Pérou, le Pérou, c'est le pays d'origine de la pomme de terre. C'est le pays qui offre la plus grande variété de patates au monde. Et donc on a là-bas une infinité de variétés de pommes de terre qui sont cultivées par des paysans depuis des millénaires, par des paysans qui sont soucieux d'en préserver toute la diversité. Et toute cette diversité, aujourd'hui, elle est complètement compromise par l'arrivée de tous ces produits surgelés, complètement standardisés, en provenance de l'Union européenne. Et puis, la deuxième raison pour laquelle ce type d'accord, c'est une aberration, c'est que, et il faut bien le garder à l'esprit, tous ces produits surgelés qui sont exportés, comme par Clarbout, ce sont des produits qui sont très lourdement subsidiés par l'Union européenne, donc par le contribuable, et ce sont des produits qui sont produits par une agro-industrie extrêmement polluante qui va faire diminuer les coûts de production au détriment des agriculteurs, au détriment de l'environnement. Et donc, le résultat, c'est que ces produits qui sont exportés de l'Union européenne, ils peuvent être revendus beaucoup moins cher sur les marchés sud-américains que les productions locales. Et donc, forcément, on est là face à un problème de concurrence déloyale très clair qui empêche les agriculteurs de ces pays de vendre leur propre production à un prix suffisamment rémunérateur. Et donc, le résultat de ça, ben, c'est la faim et la pauvreté qui augmentent dans les campagnes.
Quand même batailler énormément. On a lancé une pétition pour pouvoir obtenir une audition, parce qu'une des grosses difficultés du combat, c'est de pouvoir accéder au niveau régional, à la politique régionale, en fait. Les ministres, je crois qu'ils s'en foutent totalement de notre petite histoire ici. Et on n'arrive pas à... Ils ne sont pas très accessibles et donc on n'arrive pas à les toucher. Et donc pour les toucher, c'est tout un système assez complexe. On nous a dit, faites une pétition, la pétition arrivera au Parlement. Au Parlement, on va pouvoir vous entendre si vous avez plus de 1000 signatures. Et donc les parlementaires iront secouer les ministres un peu plus loin. Donc on voit déjà le parcours du combattant pour juste se faire entendre auprès de certains ministres. Et donc, on a fait cette fameuse pétition. En 2 semaines et demie, on a obtenu 2500 signatures. Et donc, on a ce droit à avoir une audition auprès des parlementaires. Et donc, d'abord, ils ont vérifié chaque signature une à une. Donc, ça a pris quand même pas mal de temps. Donc ici, normalement, mi-mai, on va être reçu par cette commission parlementaire. Mais ça ne veut pas encore dire que les ministres écouteront tout ce que les parlementaires vont dire. Et donc voilà, c'est un peu le combat de David contre Goliath, mais on y croit. En tout cas, nous, on trouve que le projet est absurde pour plein de choses. Et donc, je crois que si vous êtes là aussi aujourd'hui, vous nous soutenez dans ces absurdités et dans cette mise en évidence de toutes ces dérives que ce modèle peut engendrer. Actuellement à Frameri, pour le moment, on essaie d'avoir une modification du plan de secteur. Donc il faut savoir que le site qui est choisi pour implanter l'usine est un site industriel. Donc le site industriel dit que pour des raisons environnementales, des raisons de santé et des raisons de protection du cadre de vie des citoyens, le site doit être isolé des habitations. Donc si vous allez faire le tour par là, vous allez voir que vous rentrez dans la ville, qu'il y a plein de maisons, il y a des rues, etc. Et donc le site ne correspond plus à la définition. Et donc ici, ce qu'on souhaite obtenir auprès de nos ministres wallons, c'est la modification du plan de secteur.
La question, c'est si on veut acheter ce qu'on veut et manger des choses de bonne qualité, alors qu'est-ce qu'on produit? Et donc ça, c'est un peu renverser la balance. C'est plus le consommateur qui choisit ce qu'il mange, c'est en fait le consommateur devrait pouvoir choisir qu'est-ce qui est produit. Et à partir de là, on peut se dire, ok, ça va changer. Et avec les politiques qui se développe quand même en Belgique assez fortement, les ceintures alimentaires. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment très prometteur parce qu'en fait, la Belgique étant tellement densément peuplée, en fait, si on met une ceinture de 20 km autour de chaque grande ville en Belgique, elles se touchent toutes, quoi, quasiment. Entre Namur et Charleroi, il y a 50 km, entre Charleroi et Liège, il y a 50 km, entre Bruxelles et Charleroi, enfin, et Gand et Anvers, tout ça, c'est à côté. Donc, en fait, si on met des ceintures alimentaires autour des grandes villes, on va pouvoir avoir des produits frais de qualité, et là, pour le coup, vraiment pas cher. Donc les gens sont prêts à payer quand même assez cher. En fait, ils sont prêts à payer le prix qu'ils sont en train de payer en ce moment. Mais dans le prix qu'on paye en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui va aux producteurs et il y a beaucoup de choses qui vont aux intermédiaires, quoi. Donc en fait, en gardant le même prix, en donnant directement cet argent aux paysans, le paysan gagne plus et le consommateur a des produits de bonne qualité. Et ça, on le voit quand même que c'est en train de monter assez régulièrement. Ça marche.